Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Grand Ciel et vous écoutez votre émission préférée, Caméléon avec un K. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Mira.
Alors Marie, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, Mira, tu nous parleras d'une association contre le braconnage appelée l'IAPF. Après cela, je vous parlerai d'un des événements sportifs américains le plus connu, le Super Bowl. Et ensuite, vous pourrez écouter l'interview de Marie Lafée qui nous parlera des difficultés rencontrées en tant que sourde appareillée avec l'obligation du port du masque, notamment au lycée.
Eh bien, ça a l'air vraiment super intéressant, Marie. On commence donc par le Super Bowl.
Avec plaisir. Je vais vous parler du Super Bowl, cet événement sportif qui rassemble le monde entier chaque année. Ce match de football américain est, en plus de l'aspect sportif, un véritable enjeu commercial et économique. Cette année aura lieu la 55e édition où se rencontreront les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City. De la France, nous pourrons la suivre sur la chaîne L'Équipe, le dimanche 7 février.
Mais d'abord Marie, qu'est-ce que le Super Bowl ?
Le Super Bowl est la finale du championnat organisé par la National Football League, que j'appellerai NFL, Ligue américaine de football américain. Conclusion des séries éliminatoires, il oppose les vainqueurs des deux conférences de la Ligue, l'American Football Conference et la National Football Conference. Le match clôt une saison d'environ 5 mois, allant de septembre à février. La rencontre a été créée à la suite de la fusion entre les ligues NFL et AFL au milieu des années 1960. Les deux championnats se sont mis d'accord pour que leurs champions respectifs s'affrontent lors d'une finale afin de déterminer le champion des États-Unis. La fusion est officielle en 1970 et si chaque ligue est renommée en conférence, le match reste dans la NFL comme la rencontre qui détermine le champion de la saison. Les franchises les plus victorieuses du Super Bowl sont les Steelers de Pittsburgh avec 6 victoires et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec 4 victoires. Le Super Bowl est l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis et l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Plus qu'un match, le Super Bowl est une véritable messe outre-Atlantique. Le show de la mi-temps est très attendu, les plus grands pop stars y ont participé, à l'instar de Michael Jackson, James Brown, Stevie Wonder ou encore Prince, Madonna et Beyoncé.
Alors, où se déroule-t-il et pourquoi un endroit serait-il favorisé à un autre?
Le lieu de la finale est choisi par la National Football League plusieurs années à l'avance. On sait d'ailleurs déjà que l'édition 2022 aura lieu à Los Angeles, 2023 à Glendale et 2025 à la Nouvelle-Orléans. Les villes font acte de candidature, un peu à l'image des villes olympiques. Et la gagnante est désignée par un vote secret entre les 32 propriétaires de la ville. La NFL a développé un cahier de charges important pour les villes d'accueil du Super Bowl, incluant notamment l'utilisation gratuite d'un parking de 35 000 places. Un stade avec un dôme et une température contrôlée pour les villes dont la température moyenne est inférieure à 10 degrés. L'accès à 3 parcours de golf ou encore à 2 bowling. Les premières finales se déroulent dans le sud du pays pour des raisons évidentes de météorologie puisque la finale se dispute en janvier ou en février. Toutefois, la multiplication des stades couverts dans les années 1980 et 1990 a ouvert l'organisation du Super Bowl aux villes du Nord, même si cela reste encore marginal.
Et donc cette année, dans quelle ville va-t-il se dérouler?
Il se déroulera à Tampa, en Floride.
D'accord.
C'est-à-dire une ville assez chaude.
Ok. Et donc, la mi-temps dont tu nous parlais, comment se déroule-t-elle?
Comme je l'ai dit précédemment, la mi-temps est très animée. C'est un peu une tradition. Édition après édition, il est devenu l'événement artistique de l'événement sportif et contribue fortement aux audiences télévisuelles. Avant les années 1980, le spectacle de la mi-temps est créé autour d'un thème et est le plus souvent réalisé par une fanfare. À partir des années 1990, les spectacles de mi-temps deviennent des spectacles de pop culture. Afin d'augmenter l'intérêt des spectateurs et des téléspectateurs, le spectacle à la mi-temps du Super Bowl 27 est assuré par Michael Jackson. Le Super Bowl 38 est resté célèbre pour l'incident entre Justin Timberlake et Janet Jackson, surnommé « Scandale du Nipplegate ». Après cet événement, le spectacle présente plusieurs années des artistes ou formations de rock, avant le retour des artistes pop en 2011.
Et cette année, du coup, ce sera quel artiste?
Cette année se produira The Weeknd, qui est un artiste pop très en vogue en ce moment.
Très bien. Et donc, tu nous parlais que le Super Bowl influence le monde, mais comment?
Le Super Bowl est suivi dans plus de 200 pays et recueille chaque année une audience supérieure à 100 millions de téléspectateurs, essentiellement en Amérique du Nord tout de même. Le Super Bowl est devenu un événement majeur de la télévision américaine pendant les années 1970. Les études d'audience montrent que ce match enregistre des parts de marché considérables, situées entre 40 et 60%. Sur les 10 meilleures audiences de tous les temps aux États-Unis, la moitié d'entre elles sont survenues lors du Super Bowl. Cet engouement s'explique en partie par le fait qu'il s'agit du seul championnat professionnel dont la finale se dispute encore en une seule manche. Contrairement à la NBA en basketball, la NHL en hockey et la MLB en baseball, où la meilleure équipe est désignée au terme d'au moins 4 matchs. Avec de tels chiffres d'audience, le coût des annonces publicitaires atteint des sommets. Ainsi, en 2007, une annonce publicitaire de 30 secondes diffusée pendant le Super Bowl 41 était facturée 2,7 millions de dollars. En 2012, elle était de 4 millions et en 2019, de 5,250 millions. Le 7 février 2010, le record d'audience aux États-Unis en télévision, détenu depuis 1983 par l'épisode final de la sitcom MASH, était passé à l'occasion du Super Bowl 44, celui-ci ayant été regardé par 106,5 millions de téléspectateurs. Ce même record est battu dès l'année suivante à l'occasion du Super Bowl 45, joué le 6 février 2011, 111 millions de téléspectateurs ayant regardé les Packers de Green Bay conquérir un quatrième titre. Le record est à nouveau battu en 2012 lors du Super Bowl 46 joué à Indianapolis avec 111,3 millions de téléspectateurs. Et en 2015, le spectacle de Katy Perry à la mi-temps étant regardé par 114 millions de téléspectateurs a encore une nouvelle fois battu le record. La retransmission de ce spectacle devient également l'émission la plus regardée de toute l'histoire de la télévision américaine. Les coûts de diffusion de la NFL sont importants. Ils sont estimés à 500 millions de dollars en 2006. Les trois réseaux nationaux, SBS, ABC et Fox, financent à égalité la saison NFL. Ces chaînes diffusent le Super Bowl à tour de rôle. Pour conclure, la National Football League estime que l'organisation du Super Bowl rapporte au moins 600 millions de dollars en retombées économiques à la ville qui l'accueille. Le coût moyen pour assister au Super Bowl est tout de même estimé à 6 337 dollars par personne.
Ça fait beaucoup.
Eh ouais!
Alors, je continue donc avec un sujet complètement différent. Je vais vous parler aujourd'hui d'une association australienne qui lutte contre le braconnage au Zimbabwe, un pays dans le sud de l'Afrique qui se situe entre le Mozambique, la Zambie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Cette association, c'est l'IAPF, l'International Anti-Poaching Foundation, donc la Fondation internationale contre le braconnage en français. Elle n'est pas hyper connue, mais un peu quand même, surtout grâce à son équipe de rangers, connue sous le nom d'Akashinga, c'est-à-dire les braves en langue shona, une des langues officielles du pays. Et si on a un peu parlé des Akashinga, c'est après un mini-documentaire réalisé l'an dernier par National Geographic et James Cameron, le réalisateur de films comme Avatar ou Titanic, qui est d'ailleurs assez engagé pour l'environnement. Et c'est surtout parce que ce groupe de rangers est composé exclusivement de femmes, qui sont le plus souvent, enfin qui étaient le plus souvent dans des situations difficiles, victimes de violences, seules avec des enfants, assez pauvres, etc. L'association est fondée en 2017 par un ancien militaire australien, Damien Manger, qui les a recrutés dans des villages autour de la zone à protéger, donc au début surtout dans le parc national du Bas-Zambèze, et il les a entraînés selon des techniques militaires. Tout ça peut laisser un peu sceptique. D'abord, la présence d'un groupe armé presque militaire dans la zone est-il vraiment pertinent? Apparemment, oui, puisque d'après l'association, ces femmes sont beaucoup moins sensibles à la corruption, plus aptes à désamorcer des situations violentes et moins à même de faire usage de la violence, moins donc que des hommes, malgré des braconniers qui sont, eux, très dangereux et armés. Le fait que le groupe ne soit composé que de femmes qui occupent un rôle habituellement dévolu aux hommes en a aussi laissé certains perplexes. Le Zimbabwe n'est pas le pays où l'égalité entre les hommes et les femmes est la plus complète. Selon le classement de National Geographic, il a la 74e place sur 160 dans le classement de l'égalité homme-femme. Ce n'est pas catastrophique, mais ça pourrait être mieux. La France, par exemple, est 20e. Mais selon Damien Manger, donc le fondateur de l'association, elles réussissent au contraire bien mieux que les hommes l'entraînement très difficile auquel elles sont soumises au début. Proportionnellement, elles sont bien moins nombreuses à abandonner, ce qui, selon lui, vient sûrement du fait qu'elles ont subi des choses beaucoup plus difficiles dans leur vie. Enfin, d'après certaines études, les femmes des pays en développement investissent 90% de leurs revenus pour leur famille, contre 35% pour les hommes en moyenne, ce qui contribue au développement économique de la région et qui aide par exemple aussi à pouvoir scolariser leurs enfants, etc. Parce que leur salaire est beaucoup plus important que le salaire moyen dans la région. Et leur présence et leur activité génèrent plus d'argent en un mois que la chasse aux trophées en un an. Il y a vraiment une grosse différence. Donc, leurs actions semblent être efficaces. Selon l'association, le braconnage a diminué de 80% dans les régions où elle opère, de 350 000 hectares en 2018, avec 1100 rangers. En plus de ça, elle donne un exemple aux petites filles de la région, mais aussi du monde entier, parce qu'elle montre que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on est forcément une princesse qui ne peut pas se battre et se défendre. Elles sont d'ailleurs soutenues par des personnalités comme le docteur Jane Goodall et ont reçu un certain nombre de prix. Je pense donc que c'est un programme efficace sur plusieurs plans, à la fois il est bénéfique pour l'environnement, évidemment, mais aussi à l'économie et aux habitants de la région, en espérant qu'il puisse se développer et continuer à exister.
I'm going to read the Akashinga Oath. So as I'm reading, I want you to repeat after me. Is it clear?
Yes, sir!
Merci Mira, ce fut très intéressant.
Merci. Et donc, on passe tout de suite à l'interview de Marie Laffey. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet complètement différent, plutôt la façon dont les personnes qui sont sourdes et malentendantes font aujourd'hui avec les masques, parce que comme on ne peut pas voir la bouche des gens, ça devient beaucoup plus difficile pour lire sur les lèvres et beaucoup de gens cèdent des lèvres pour mieux comprendre les gens, c'est ça?
Exactement. J'utilise la lecture labiale.
Alors, toi, tu es sourde, mais tu as un appareil auditif, donc tu peux entendre, c'est ça?
Exactement.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'entendre pour quelqu'un qui est sourde aussi bien que s'il n'était pas sourd grâce à un appareil?
Alors, l'appareil est fait pour entendre, mais pas à 100% comme les entendants.
D'accord.
Donc, il n'est pas complètement au top, on va dire.
Et c'est à combien de pourcents à peu près?
Oh, allez, peut-être maximum, pas sûr, hein. Peut-être maximum 75%.
D'accord.
Peut-être. Parce que, par exemple, si je vais sur la route, je n'entends pas c'est dans quelle direction arrive la voiture. À droite ou à gauche, je ne peux pas savoir. Et aussi repérer la voix des gens, ça, je ne peux pas savoir qui parle également.
Donc, tu t'aides beaucoup de la lecture labiale au quotidien?
En effet.
Et est-ce que du coup, tout le monde s'en sert? Toutes les personnes qui entendent mal s'en servent?
Je pense que oui, ça aide beaucoup.
Et donc, les masques, évidemment, c'est un problème pour utiliser ça.
En effet, c'est très compliqué. Je me souviens qu'au début du cours, j'étais perdue, surtout les cours de langue.
Oui.
Parce qu'en cours de langue, c'est primordial de voir comment la bouche est faite, tout ça. Et donc, j'ai perdu. Il m'arrive parfois que je comprends seulement 50% des cours au début de l'année.
Est-ce que ça s'est amélioré maintenant?
Là, je commence à m'habituer parce qu'il faut s'habituer avec.
Oui.
Donc, c'est toujours pas. Enfin, je me suis habituée, enfin, pas totalement, parce que j'ai encore besoin de la lecture labiale quand même. Et donc, bon, bah, on va faire avec. Hein. Et sinon, la lecture labiale me manque quand même.
Donc on a entendu un peu parler des masques transparents justement pour remédier à ce problème. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution?
Alors, c'est une bonne solution s'il n'y avait pas la buée.
Ah mince.
Je m'explique. Dans mon lycée, ils ont fourni des masques transparents assez tard. Ils ont tous testé. Malheureusement, il y a des inconvénients. C'est-à-dire qu'il n'est pas confortable. Il y a de la buée et ils oublient aussi. Et donc, ça aide pas beaucoup, finalement. Mais c'est un peu mieux, quand même. C'est un peu mieux.
Est-ce qu'il y aurait une autre solution un peu meilleure ou faut juste attendre qu'on n'ait plus besoin de masque?
Pour l'instant, alors si on est en cours, ce serait bien que le professeur fasse le cours déjà d'avance et me donne en texte. Mais
D'accord.
personne ne le fait parce que c'est un travail colossal, c'est sûr.
D'accord. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si on doit parler à quelqu'un qui a vraiment besoin de la lecture labiale, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à mieux nous comprendre?
Alors, là, ce qu'ils font dans mon lycée, c'est que la personne se recule et enlève son masque.
D'accord.
Et pas. Pour
D'accord.
l'instant, c'est ça.
C'est la seule solution, en fait.
Ça.
Eh bien, je te remercie vraiment. Eh bien, merci de nous avoir dit tout
Merci.
ça. Et j'espère que ça va s'améliorer vite pour qu'on puisse retirer nos masques et que tu puisses mieux
J'espère, moi aussi.
nous comprendre. Merci, au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris des choses à nos côtés. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de Radio Grand Ciel, Caméléon avec un K, ainsi que sur notre Instagram qui porte le même nom. Au revoir Marie, au revoir.